SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, quatrième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre Paul Keating. Dans celui-ci, on va s'intéresser aux différentes politiques qu'il a mises en place lorsqu'il a exercé le pouvoir à Canberra. Très bonne écoute à tous. Comme la plupart des autres premiers ministres dont on a parlé dans cette série, on va voir un petit peu ce qu'il a fait sur le plan international. Et on a vu que c'est un mouvement qui a été enclenché déjà par des prédécesseurs de Paul Keating, mais il a notamment participé à rapprocher l'Australie encore un peu plus de ses voisins asiatiques. Avec l'APEC qui avait été fondée par Bob Hawke juste avant. Mais il y a un autre événement qui intéressera peut-être plus nos auditeurs français. On sait qu'en 95, Jacques Chirac est élu à la présidence de la République et presque immédiatement, il décide de relancer les essais nucléaires dans le Pacifique. Et ça, Paul Keating, ça lui déplaît énormément. Et d'ailleurs, c'est une période de vraiment très très vive tension entre la France et l'Australie, peut-être la période de plus grave tension, excepté donc l'épisode des sous-marins qui est beaucoup plus près de nous dans le temps.
Oui, les Australiens avaient rappelé leur ambassadeur de Paris. Il y avait aussi des problèmes en Nouvelle-Calédonie à ce sujet-là. Les années, la fin des années 80, le début des années 90, l'Australie et la France n'ont pas de bonnes relations. Il y a un épisode, grosso modo, les bonnes relations s'arrêtent avec Rocard et Bob Hawke et le traité sur le pôle sud. Mais après, tout ça s'envenime assez rapidement sur des questions au début de libre-échange. C'est la grande époque du GATT, le General Agreement Tariff and Trade, où il y a un mouvement global poussé par les États-Unis pour mettre fin aux tarifs douaniers. Alors oui, vous m'avez bien entendu, parce qu'aujourd'hui on est avec Donald Trump qui
en est plein dedans,
exactement l'inverse. Mais à l'époque, l'Australie fait partie de ce pôle anglo-saxon qui a amorcé la libéralisation sous Keating et donc il la veut entière. Et nous, à la fois sous Mitterrand puis sous Jacques Chirac, Chirac ayant de toute façon été Premier ministre de Mitterrand pendant une période de cohabitation, nous sommes très attachés à la PAC, à la politique agricole commune de l'Union européenne, qui distribue des subventions en veux-tu en voilà, ce qui est vu comme de la concurrence déloyale par tout un tas d'autres pays. Et donc effectivement, en 93-94, Keating est très vocal et très opposé à la politique française vis-à-vis de la position française sur la modélisation qui est très, comment dirais-je, très conservatrice. Et c'est paradoxal, hein, parce que vous avez parfois un premier ministre de droite en France, ou plus Chirac qui est de droite, mais c'est une droite sociale. Alors que là, vous avez un homme de gauche, Paul Keating, qui est plutôt une gauche de droite et très intéressé par la libéralisation et la dérégulation des marchés, ce qui peut sembler paradoxal. Mais souvent, dans les échiquiers politiques, l'image de gauche, de droite et du centre n'est jamais transférable, ne peut pas être reproduite d'un contexte national à un autre. Pour les essais nucléaires, effectivement, c'est compliqué pour les Australiens de comprendre que pendant plusieurs décennies, on avait été pris en étau entre Washington d'un côté et Moscou de l'autre. Et que si vous voulez avoir une politique souveraine, nationale et internationale, eh bien la seule voie pour l'autonomie de la France pendant plusieurs décennies a été d'avoir à la fois un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, mais surtout d'être souverain dans sa capacité de défense et d'avoir l'arme nucléaire. C'était la politique qui a été conduite par le général de Gaulle très tôt et qui a été suivie tous les présidents français, de gauche, de droite, comme du centre. Et donc, cette capacité de défense, les Australiens, c'est bien facile. Ils sont protégés par le parapluie nucléaire américain. Et ils ont eu le culot de vouloir proposer un Pacifique sans armes nucléaires, à l'exception des États-Unis. Ben, vous rigolez. Donc, effectivement, la France a dit, mais attendez, c'est un double jeu. Vous voulez pas de nucléaire dans le Pacifique, mais quand c'est celui des États-Unis pour vous protéger, ça vous va. Non. On a 1 500 000 Français dans le Pacifique, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, et puis nos citoyens qui sont expatriés dans tout un tas de pays de la région, nous sommes une puissance nucléaire, nous avons tous les droits d'exercer cette prérogative, sachant que, voilà, moi là je suis à Canberra, Papété, c'est à plus de 8 heures d'avion quand même, donc c'est pas la porte à côté. C'est comme si la France... je sais pas, moi, venait s'interposer sur les affaires politiques au Kazakhstan. C'est loin, c'est pas chez nous. Donc la France l'a très mal pris.
Alors, et les Australiens
l'ont mal pris également.
Pour me faire l'avocat du diable, même si on a bien entendu les arguments, moi j'avais compris ça comme moins une critique des essais nucléaires de manière générale, on va dire, au nom de la non-prolifération, etc., etc., même si c'est un discours qui porte énormément à l'époque. Mais le fait que, en gros, ce soit une forme de néocolonialisme en disant on fait nos essais nucléaires, mais on le fait à 17 000 km de la France métropolitaine, dans les anciennes colonies, parce que ces gens-là, au final, on s'en fout un petit peu, et donc c'était même pas le fait que ça soit proche de l'Australie, puisque vous l'avez dit, enfin Tahiti c'est quand même à 8 heures d'avion, mais voilà, qui est cet aspect, bon, on fait sauter nos bombes, mais chez les Polynésiens plutôt que chez les métropolitains, quoi.
Alors, la majorité des puissances nucléaires ont fait les tests dans leurs anciennes colonies ou dans leur empire informel. Les tests français ont lieu dans le désert algérien. Bon. Alors vous allez me dire, mais l'Algérie était des départements constitués de départements français du fait de la colonisation. Les tests nucléaires américains dans le Pacifique pendant la fin des années 40 et 50, les tests britanniques au large de l'Australie, donc également dans le Pacifique, je ne justifie en aucun cas que les puissances nucléaires aillent tirer ou faire des essais dans des espaces colonisés. Ce que je veux dire en tant qu'historien, c'est que c'est un fait. C'est un fait pour les Soviétiques, pour les Américains, ils ont essayé quelques bombes chez eux, sur le territoire national, mais très vite, la grande majorité des essais se fait dans l'espace pacifique, en fait. Donc effectivement, c'est du colonialisme, effectivement, ça détruit des habitats naturels, ça a un impact majeur sur les populations locales, sur les cancers, sur l'industrie de la pêche, ça détruit... parce qu'on passe des essais nucléaires dans les airs aux essais nucléaires souterrains, puis sous l'eau. Donc, enfin, vous voyez les photos d'atoll avant et après, il ne reste plus rien. Bon. L'arme nucléaire, comment dirais-je, elle est très débattue, et en Australie, le nucléaire a très mauvaise presse. Ils ont raté le tournant. Ils s'étaient très intéressés sous Robert Menzies. Dans les années 40-50, ils faisaient tout pour obtenir la bombe nucléaire des Britanniques. Ils ne l'ont pas eu. Et après, ils ont pris le pli écolo en disant, voilà, le nucléaire sous toutes ses formes, c'est mauvais. Oui, aujourd'hui, l'Australie produit la majorité de son électricité avec du charbon. La France n'a quasiment pas d'émissions de CO2 grâce au parc nucléaire, qui effectivement pose un certain nombre de problèmes sur le traitement des déchets. Pour l'arme nucléaire, c'est pareil. Ils y sont opposés parce que...
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Ils ont une politique assez naïve, peut-être, des relations internationales, parce que, en fait, voilà, on se couvre derrière Londres, on se couvre derrière Washington. Le tournant qu'amorce Paul Keating sur l'ouverture australienne, c'est celle que vous avez rappelée sur l'ouverture économique. très tôt, il continue ce qu'avait amorcé Whitlam avec l'ouverture à la Chine, concrétisé par le gouvernement Hawke, qui avait permis à certains investisseurs chinois de venir extraire des minerais pour l'économie chinoise. Lui, il veut étendre ça. Et il dit, l'Australie, que nous le voulions ou pas, est située dans l'Asie Pacifique. Nous sommes une anomalie de l'histoire. Nous sommes des Blancs dans un espace où nous ne devrions pas être, puisque cet espace a été colonisé. Et donc, c'est là où se fait le lien avec le nucléaire chez les autres. Les Australiens, à l'époque, considèrent que la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, Bob Hawke, je crois, ou Keating, fait inscrire ça sur la liste des pays à décoloniser. Alors, vous imaginez la réaction de Paris. Surtout à un moment où il y a des tensions assez vives, on n'est pas encore aux accords de Matignon avec avec la Nouvelle-Calédonie. Les Français disent, mais attendez, vous nous donnez des leçons, mais vous les avez éradiquées. Quelle est la situation des aborigènes en Australie? Allons regarder votre passé en Tasmanie, regardons l'espérance de vie des aborigènes australiens qui est de 20 ans inférieure à celle des Australiens blancs. Donc vous êtes gentils, mais allez balayer devant votre porte. Bon, en réalité, personne n'a raison, puisque à la fois en Australie comme en France, l'héritage du colonialisme est très marqué. Sauf que c'est un moment où l'Australie en prend conscience et essaie de voir comment elle pourrait traiter le problème, alors que la question coloniale, encore aujourd'hui en France, quand vous traitez de l'Algérie, de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des questions qui sont pas simples. On va vous répondre, article 1 de la Constitution, la France est une et indivisible. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, voilà, ce sont des choses qui restent à résoudre. Et pour revenir à la politique étrangère de Paul Keating, ce qui est intéressant, c'est que lui explique aux Australiens, nous avons une connexion historique avec Londres, puis avec Washington, mais en fait, notre meilleure protection, c'est le régionalisme. C'est de devenir une puissance moyenne d'Asie-Pacifique et d'être intégrée aux économies et surtout à notre voisin le plus peuplé, l'Indonésie. Et donc Keating, très tôt, part voyager en Indonésie. Enfin, c'est des liens qu'il avait développés dans les décennies auparavant, mais enfin, il met ça en œuvre en tant que Premier ministre. La relation indonésienne-australienne grandit. La puissance économique australienne dans le Pacifique se développe. Les liens avec la Chine et le Japon et d'autres pays comme l'Indonésie et la Malaisie sont en pleine expansion. Donc c'est un tournant géostratégique et un tournant économique pour l'Australie qui est économiquement très positif, mais qui culturellement est très difficile à avaler pour la droite australienne.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour la dernière partie de cet épisode consacré à Paul Keating. On s'intéressera dans celui-ci à sa vie après avoir été Premier ministre et son retour aux affaires civiles. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Three iconic Australians experience firsthand what it takes to stay alive.
Oh my gosh.
Terrifying.
I have no idea what I'm about to do.
The Hospital in the Deep End starts 5th of March on SBS On Demand.